pour la lettre E, nous avons choisi l'État. La définition marxiste de l'État l'assimile à un instrument au service de la bourgeoisie, lui assurant la permanence des conditions de la reproduction du capital. Peut-on se satisfaire de cette présentation de l'État ? Et comment Marx appréhende-t-il la question de l'État ? Peut-être l'un des grands manques de sa théorie politique.
La définition que vous avez donnée est la bonne. Si on part de la représentation, on peut dire, spontanée que les gens en général ont de l'État, c'est que l'État apparaît comme une sorte de monstre, quelque chose qui fait peur. Parce que c'est à la fois abstrait et très lourdement chargé précisément par les systèmes de répression. Lorsque Marx est étudiant, il y a un grand homme qui est le théoricien par excellence de l'État, c'est Hegel. Et ce que Marx retient, qui est chez Hegel, notamment dans la philosophie du droit, c'est le couple. Ce couple, c'est celui de l'État et de la société civile. Pour Hegel, il y a en quelque sorte une graduation qui part d'un moindre État social jusqu'à un État social rationnel tel qu'il le conçoit. Et alors, la base de départ de cette structure, c'est ce que Hegel appelle la société civile. C'est l'État, cette fois-ci avec un petit E, du besoin. C'est-à-dire une situation où ce qui l'emporte, ce sont les individus, les conflits entre individus, et les seules petites structurations qui existent, c'est la famille par exemple, c'est pas avec ça qu'on fait naturellement un pouvoir politique. Il est donc nécessaire qu'au-dessus de cette société civile s'élève l'État. Et la fonction de l'État, c'est de mettre la rationalité dans la société. Que Marx va-t-il faire de ça ? La première critique qu'il fait de la philosophie du droit de Hegel, c'est-à-dire de sa théorie de l'État, c'est celle qui va consister à inverser dans le couple le rapport entre l'État et la société civile. Marx va montrer que la chair du politique, la chair du social, c'est précisément la société civile et que l'État n'est qu'une émanation de la société civile. Autrement dit, il faut, dans un mouvement de révolution sociale, il faut que la société civile récupère en son sein les forces qu'elle a aliénées dans l'État. Il va définir la société civile d'une autre manière que Hegel. Il y a un petit point sémantique qui a beaucoup intéressé les marxistes, c'est que la société civile, c'est la bürgerliche Gesellschaft. C'est la société bourgeoise. Alors cette société bourgeoise, là, le simple fait de qualifier ainsi l'expression, fait entrer toutes les considérations que nous avons dites sur la bourgeoisie et sur le fait que l'État va donc dépendre de la classe qui domine, ce qui naturellement changera tout. On sera loin de la conception hegelienne. En tout cas, pour Marx, voilà comment les choses se passent. Et on ne peut pas dire que l'État soit l'organisation de la classe dominante. L'État est au service de la classe dominante. Toutes ces distinctions qui peuvent paraître un peu abstraites, un peu philosophiques, on les comprend mieux si on pense, par exemple, à l'usage qui a été fait dans les dernières années de l'expression société civile, et au sens société civile distincte de l'État. On a constitué des gouvernements en France où on a pris soin de distinguer les gens qui venaient de la société civile des autres. C'est-à-dire des gens qu'on empruntait au domaine de la médecine, au domaine de l'éducation, au domaine des associations, du syndicalisme, et qui devenaient ministres. Il y a d'autre part la considération qui est tout à fait apparente de la distinction qui existe aujourd'hui entre les hommes de l'économie et les hommes de l'État, entre le politique et l'économique, où les hommes de l'économie ne sont pas en titre les détenteurs de l'État. Il y a une délégation de pouvoir de l'économie au politique. Mais cette délégation de pouvoir montre que le politique est soumis aux intérêts économiques. L'État est aussi c'est la puissance politique. C'est une puissance qui représente l'économie, et ça, ça veut dire qu'elle est effectivement déléguée par la classe dominante dont elle sert les intérêts. Mais Engels a aussi une formule tout à fait intéressante dans laquelle il dit « l'État est la première puissance idéologique ». Ça, ça évoque les considérations qu'ils avaient eues, Marx et lui, concernant la Révolution française. Ils avaient montré que la Révolution française, qui portait en son sein, ben on le sait mieux maintenant, plusieurs révolutions. La révolution qui a triomphé parmi ces révolutions qui ont porté la révolution française, c'est la révolution bourgeoise. Et là, quand on considère cet avènement de la bourgeoisie, de la révolution bourgeoise, on voit bien que l'État va servir au pouvoir de la bourgeoisie, mais va servir aussi en tant que pouvoir idéologique. Pourquoi la révolution bourgeoise triomphe-t-elle ? Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, les intérêts de la bourgeoisie sont présentés comme les intérêts de la nation. La bourgeoisie arrive à se confondre, par exemple, avec la République. Et c'est là qu'on peut dire que les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. Aujourd'hui, nous voyons de manière plus concrète et même, on peut dire, plus dure, à quel point ces moyens sont importants pour formater les consciences. Ce sont les grands médias. Les grands médias sont les produits, sont les incarnations même des pouvoirs économiques, et les hommes politiques sont bien obligés d'en passer par là. Cette idée de la puissance idéologique est une idée très forte parce que, en particulier, la fonction de l'État, c'est d'accréditer, et ça c'est peut-être sa fonction idéologique essentielle, créditer l'idée que la société n'est pas composée de classes. Ça, la plus vieille idée bourgeoise, c'est celle-là. Lorsque la bourgeoisie, qui sait très bien elle, qu'il y a des classes, naturellement, parce qu'elle a souvent lu Marx de manière plus attentive que certains militants révolutionnaires, la bourgeoisie sait très bien que les classes existent, mais il ne faut pas qu'on les voit. C'est la raison pour laquelle on parle de partenaires sociaux, sur les couches sociales, enfin toute la terminologie, mais pas classe. Classe, il faut éviter. Il faut que l'État apparaisse comme au-dessus des classes. Et on ne compte pas le nombre de chefs d'État, de présidents, qui se sont définis comme étant au-dessus des factions, au-dessus des partis, et tout ça se traduit comment ? Au-dessus des classes, voilà. Bon, si on vient maintenant à l'existence de l'État dans le marxisme, il y a d'abord l'idée que pour toutes les raisons que je viens d'avancer, l'État doit disparaître. Donc il faut se défaire de l'État. Il y a trois manières. Soit on le détruit complètement, c'est la thèse anarchiste, on l'a déjà vu avec Bakounine. Soit on l'utilise comme un instrument. Et ça, c'est une pensée qui n'a pas été loin de l'emporter dans le mouvement socialiste, parce qu'on disait... On retire à la bourgeoisie cet instrument du pouvoir et on se substitue à elle, c'est-à-dire on le prend pour nous. La troisième solution, c'est d'envisager que l'État doit être réduit au minimum pour une période provisoire. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça va donner l'idée qu'il faut détruire l'État, mais on ne peut pas le détruire du jour au lendemain. C'est la différence avec les anarchistes. Il faut créer les conditions de son dépérissement. C'est d'abord que l'État doit changer de forme. Il doit être un État non-État, comme on l'a dit, un État demi-État, un État commune. État commune étant la meilleure expression, parce que c'est celle que Marx emprunte à l'existence historique de la Commune de Paris. Un certain nombre de mesures qu'a pris la Commune et qui peuvent inspirer l'idée d'une dictature du prolétariat. C'est-à-dire que pendant la période de dictature du prolétariat, on a bien un État qui fonctionne au minimum, mais qui remplit les fonctions qu'avait l'État bourgeois. Les fonctions de répression, d'une part, et puis d'autre part, les fonctions idéologiques. Alors l'État du prolétariat, c'est-à-dire cette tête la Commune, garde tout ça. Il garde tout ça, simplement, il introduit des mesures nouvelles. Mais cet État conserve notamment la base même, on pourrait dire, l'idée qui est celle de l'État bourgeois, savoir le droit. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de société qui fonctionne sans droit. Le droit est fondamental parce que le droit, c'est l'État. Bon, alors derrière ça, il y a la querelle, les affrontements entre les anarchistes et les communistes, mais à l'intérieur même des communistes, c'est-à-dire à l'intérieur même des bolcheviks, il y a des nuances sur la fin de l'État, la mort de l'État, le bris de l'État, en particulier le dépérissement. Et certains même pensent que l'État est exactement comme un outil, on met la main dessus, puis on s'en sert à ses propres fins. Alors ensuite, quand on passe à la pratique, on commencerait par exemple par la première grande rectification qui a été le fait de Lénine, c'est-à-dire la NEP, la nouvelle économie politique, qui semble opérer, qui opère de fait, un retour vers une gestion capitaliste de la société. Puisque Lénine dit, au lieu d'avoir des communistes qui crient « Vive la Révolution », il vaut mieux que nous reprenions les comptables capitalistes, parce qu'ils sont compétents, et que nous les utilisions pour développer notre économie. Et après, par la suite de l'État socialiste, en bonne logique, et c'est là qu'on a encore une énorme difficulté, en bonne logique, l'État qui est mis en place en 1917, est un État commun, un État de dictature du prolétariat, dont la finalité doit être de s'autodétruire pour aboutir au dépérissement de l'État. Avec le stalinisme, on voit le maintien et le renforcement de l'État. Staline se livre à toute une gymnastique pour essayer de montrer que dans les textes de Lénine, le renforcement de l'État était prévu. L'État de Staline, c'est l'État hégélien. Donc, mais renforcement de l'État, parce qu'il y aurait renforcement des luttes de classe. Alors s'il y a renforcement des luttes de classe sous la dictature du prolétariat, il est évident qu'on ne pourra pas aller jusqu'à la mort de l'État. Et ça, c'est un problème dont on peut dire que nous héritons. Aujourd'hui, il faut bien que nous voyons que l'État que nous connaissons, nous, a été modelé par la lutte de classe. Et que la lutte de classe a provoqué des avancées en matière de pouvoir, y compris de pouvoir d'État, des avancées de la classe ouvrière, des avancées de travailleurs, à telle enseigne que des spécialistes ont pu parler de lutte dans le droit. La création du droit au travail montre que les luttes de classe ont eu lieu dans le droit et qu'elles ont produit des effets qui sont eux-mêmes des effets juridiques. Et que par conséquent, le personnel lui-même de l'État a été traversé par ces luttes. Je ne dis pas que l'État aujourd'hui est un État prolétarien, non, qui est tout aussi bourgeois et capitaliste, mais enfin, il offre des possibilités sur lesquelles il ne faut pas se faire d'illusions, d'ouvrir un chemin à la lutte de classe.